Au campus Lille, il est 6h.
Je n'ai encore jamais testé sur lui. Pour l'instant, je fais. Ça, c'est plutôt un truc que je fais dans les parcs. Donc, dans les parcs, je prends un buisson, je prends du laurier, du coton ester, des plantes qui sont faciles à attraper. Et là, du coup, j'ai pris que le petit, je vais prendre le grand. On va voir si ça fonctionne. Pas sûr. J'espère un petit peu. Et là, on va faire sur une petite plante.
Avez-vous déjà pris un bain de forêt? C'est ce que propose Barbara, sylvothérapeute de Lambre-les-Douées et organisatrice de bains de forêt et de balades sensorielles dans des parcs urbains. C'est justement dans la forêt d'Austricourt, près de Douai, que nous la retrouvons pour parler de cette activité originale où elle propose de petits ateliers, comme par exemple faire écouter la musique des arbres et des plantes. Au milieu de la forêt, posée sur une branche au sol, Barbara nous parle de sa passion pour la sylvothérapie et de ses bienfaits.
Alors la sylvothérapie, c'est un mot très générique. Sylvothérapie, ça veut dire art de soigner par les arbres. Donc l'arbre peut soigner. On a l'habitude, par exemple, quand on prend, je sais pas, une infusion de tilleul, bah, le tilleul, il vient de l'arbre, c'est des choses qu'on boit. On peut faire des décoctions, dans ces cas-là, c'est à partir plutôt de l'écorce. On peut se soigner par la gémothérapie, c'est les bourgeons. Voilà, enfin, l'arbre a plein de moyens de nous aider. Et moi, celui que je préfère, c'est les bains de forêt, c'est-à-dire une immersion dans l'ambiance de la forêt qui permet en fait d'ouvrir ses cinq sens, de se remettre au même rythme que la nature. Et du coup, de se faire du bien.
Comment ça vous est venu de faire des bains de forêt? Quel est votre parcours déjà?
Alors moi, je suis ingénieure. Je travaille dans la partie déchets et plus particulièrement le zéro déchet. Donc j'ai déjà une fibre par rapport à la protection de l'environnement. Mais j'ai aussi une très grande sensibilité vis-à-vis des arbres. Et là, je me suis dit que peut-être ce serait bien que je puisse faire partager cette grande sensibilité. Donc j'ai suivi une formation en sylvothérapie pour pouvoir conforter cette sensibilité et aller un peu plus loin pour comprendre comment ça fonctionne. Et là, me rendre compte qu'il y a beaucoup d'études scientifiques sur le sujet qui confortent ce qu'on peut des fois ressentir, qui permettent d'aller quand même beaucoup plus loin et d'expliquer pourquoi est-ce qu'on est réellement apaisé quand on est en forêt, pourquoi ça nous fait du bien. Pourquoi on peut aussi être des fois plus créatif. Vraiment, c'est un bon moment et donc c'est quelque chose que moi j'avais envie de partager avec d'autres personnes. J'ai un peu l'impression autour de moi que ce monde est devenu un peu violent, très rapide, qu'on est un peu hors sol. Je vois pas tant de gens heureux autour de moi, je vois plutôt des gens stressés entre eux, entre adultes, mais aussi stressés par rapport à leurs enfants, et pourtant ils les aiment de tout leur cœur et des fois c'est quand même un peu violent. Et je sais que quand on vient en forêt, ça va mieux et ça fonctionne pour les adultes, ça fonctionne pour les enfants. Donc j'avais vraiment envie de partager ça.
Et donc comment ça se passe à bain de forêt déjà? Il y a une inscription en amont, c'est ça? Et ensuite, comment ça se déroule?
Alors, puisqu'on parle de bain de forêt, on va tout de suite parler du cliché. Chaque fois quand je parle bain de forêt, on me dit « Ah là là là, on va faire des câlins aux arbres ». Donc non, non, c'est pas un truc pour illuminer, c'est très terre à terre, c'est très pratico-pratique. Alors après, si finalement vous, votre besoin c'est de faire un câlin à l'arbre parce que vous ressentez le besoin, évidemment je vous l'interdirai pas, mais c'est pas un passage obligé. Il y a plein de gens qui font des bains de forêt et qui ne font pas de câlin aux arbres. On est plutôt sur de la marche douce en forêt. Donc on ne fait pas de la randonnée, c'est pas pour l'exercice physique. Vraiment, on prend son temps, on ralentit son rythme. Et moi, je ponctue cette marche par plein d'ateliers sensoriels. J'ai aussi une formation de pédagogie par la nature. Donc c'est des ateliers que je fais aussi avec les enfants. Je sais que ça fonctionne bien avec les enfants et les enfants ne trichent pas. Si ça fonctionne avec eux, je peux après me permettre de le faire avec les adultes. Et c'est les ateliers, par exemple, où on va se concentrer sur ce qu'on entend ou sur ce qu'on touche, où on va, par exemple, on va marcher les yeux fermés et on va voir ce qu'on ressent comme autre sensation. Et tous ces ateliers, ces exercices aussi de respiration, en fait, ça nous permet de ralentir le rythme et de se remettre vraiment en phase avec le rythme de la nature. Parce qu'en fait, on en fait partie de la nature et c'est ça, en fait, qui nous fait du bien, c'est de retrouver... En fait, on se retrouve chez nous, dans la forêt, et on est tranquille, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'objectif. C'est ni juste ni faux, on est juste là, on a notre place ici, et ça détend réellement, ça fait du bien.
Et ça dure combien de temps en général?
Alors, je fais plusieurs formules, puisqu'en fait, je m'adapte vraiment aux besoins des gens. Il y a des gens pour qui c'est vraiment compliqué de s'arrêter même 5 minutes, de se poser. Ils sont tellement habitués à être organisés, à courir partout, à optimiser, à planifier, que quand on leur dit on va se poser un quart d'heure, c'est juste impensable pour eux. Donc, je fais des sessions d'une heure que je propose dans les parcs urbains, ce qui permet de pouvoir faire ça en intégrant ça dans sa grosse organisation sans avoir besoin d'avoir une grosse logistique. Et après, on peut venir ici en forêt, comme on est là aujourd'hui, des sessions d'une heure et demie, des sessions de deux heures et demie. Voilà, c'est souvent celle-là qui fonctionne le plus. Ça permet de pouvoir caler ça dans son agenda.
Vous avez parlé oui, des séances que vous faites dans la forêt d'Austricourt, mais il y aurait d'autres lieux aussi, notamment à Douai.
Oui, on peut aussi faire des séances. Alors, dans ces cas-là, j'appelle ça balade sensorielle, plutôt que bain de forêt, parce qu'on n'est pas en forêt, on est plutôt dans des parcs urbains. Et il y a un parc que j'aime beaucoup, qui s'y prête bien, c'est le parc Bertin à Douai. Il y a des arbres vraiment remarquables. C'est un parc qui est exceptionnel, je trouve, surtout niché en plein cœur de la ville. J'ai eu la chance de pouvoir faire des balades sensorielles lors de la journée verte. Donc c'est le dimanche 13 avril, la ville de Douai m'a demandé d'intervenir et ça a eu des très bons résultats. J'ai même eu des participants qui étaient un peu sceptiques en disant « Non, mais ça ne va pas marcher votre truc, on va entendre le bruit des voitures, on n'arrivera jamais à s'apaiser. » Et finalement... Les mêmes participants ont eu du mal à partir tellement ils étaient bien et ça leur a vraiment fait du bien. Donc c'est aussi quelque chose que j'aimerais pouvoir développer, donc en accord avec la mairie de Douai évidemment.
Et c'est l'occasion, vous disiez, de faire marcher les cinq sens, de bien observer, même de raconter un peu l'histoire. On a croisé l'arbre-échelle justement. Qu'est-ce que c'est l'arbre-échelle ici dans la forêt d'Austricourt ?
Alors, l'arbre échelle, moi, c'est un arbre que je trouve incroyable et j'aime beaucoup commencer mes bains de forêt en allant déjà le voir. Donc, c'est un arbre qui a entre 200 et 300 ans. C'est un chêne magnifique, une espèce de force tranquille. Il était donc déjà là pendant la guerre 14-18 et il a servi aux Allemands comme poste d'observation. Donc, en fait, ils ont mis des barreaux de fer tout au long de son tronc pour pouvoir accéder à une plateforme en hauteur. Et on aurait pu penser que cet arbre allait mourir à cause des blessures qui lui ont été faites avec ses barreaux. Et finalement, il a survécu. Il a réussi à guérir de ça en faisant une sorte de pansement cicatriciel autour, de bourrelet. Ce qui fait que là, quand vous regardez l'arbre, vous voyez encore les traces de cette histoire-là. Vous avez encore des barreaux qui sortent, mais le chêne est toujours là. Il a toujours sa force tranquille et je le trouve très inspirant, surtout pour commencer une balade. Ça marche.
Aujourd'hui, nous parlons de bains de forêt dans la forêt d'Austricourt avec Barbara, sylvothérapeute, qui nous parle aussi des petits ateliers sensoriels qu'elle propose en forêt, comme par exemple écouter la musique des arbres et des plantes.
Alors, ce qu'on écoute avec la musique des plantes, c'est pas magique, encore une fois, c'est juste l'activité de la plante. On a des fois un peu tendance à considérer que la forêt ou les plantes autour de nous, c'est un joli décor. Mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est quand même des êtres vivants. Donc, eux aussi ont leur circulation. Comme nous, on peut avoir un système sanguin. Eux, ils ont la sève, par exemple, qui circule. Ils ont la manière dont ils captent l'eau, par exemple, dont ils font la photosynthèse. On arrive maintenant avec des appareils perfectionnés à saisir ces impulsions électriques qu'on transforme en son pour faire une belle musique qui est aussi apaisante. Et il m'arrive de m'en servir. Alors c'est souvent quand je fais des balades sensorielles dans les parcs où là les gens sont vraiment stressés. Ça fait du bien d'écouter cette musique qui apaise, tout simplement.
Si tu pouvais, nous aimerions entendre ce que tu as à nous dire. Peut-être pas rien à nous dire. Toujours pareil, il faut essayer de ne pas les abîmer, parce que ça fait quand même une pression et une petite tension.
Et donc, c'est accessible aux particuliers, à toute personne, les bains de forêt, même physiquement aussi, à tous.
Oui, c'est accessible à tout le monde. C'est vraiment une marche douce. Quand les gens s'inscrivent, je prends toujours la peine de leur demander s'ils ont des particularités physiques. Est-ce qu'ils peuvent s'asseoir par terre ou pas? Et s'ils ne peuvent pas, je leur trouve un endroit dans la forêt où on peut s'asseoir sur un tronc, comme on est là actuellement, où je modifie les ateliers en fonction des caractéristiques physiques des gens. L'idée, c'est que c'est un moment où on se fait du bien. Ce n'est pas violent du tout, donc on ne fait pas d'exercice physique violent et on s'adapte vraiment à ce que les gens recherchent et on les prend comme ils arrivent, voilà, clairement, à ce niveau-là.
Et vous avez déjà eu des retours alors, de participants, participantes suite au bain de forêt ?
Ah oui, les retours sont toujours, pour l'instant, les retours sont vraiment toujours chouettes. Même les gens qui viennent un peu sceptiques, que je vois bien au début, qui marchent vite, qui voilà, et... ou qui ont du mal des fois à entrer dans l'atelier. À chaque fois, je dis que je propose l'atelier. Personne n'est jamais obligé de le faire. On peut le faire comme on veut. Il y a des gens qui, des fois, disent « Non, cet atelier-là, je n'ai pas envie de le faire. » Et c'est OK. Et puis, il y a un moment, on sent que ça se détend, s'il y a un déclic, quelque chose qui se relâche. Et j'aime bien finir mes bains de forêt par un moment convivial où j'apporte toujours une petite infusion, des petits gâteaux, des petites choses à manger. Comme ça, on fait un petit sas de décompression avant de retourner dans la vraie vie. Et là, les retours sont... enfin, déjà font du bien parce que je me rends compte que les gens... ça leur a vraiment fait du bien et voilà, ça fait plaisir. Il y a même des gens qui me demandent les prochaines dates pour pouvoir revenir régulièrement parce que c'est devenu presque un besoin. Alors j'allais dire une drogue, non, absolument pas. Et sachant qu'en plus ce que je propose, c'est tout à fait reproductible tout seul. C'est-à-dire que rien ne vous empêche après de trouver un endroit que vous aimez bien, dans un parc, dans la forêt ou dans votre jardin, et juste de vous poser un quart d'heure, 20 minutes, de refaire quelque chose, atelier de respiration, ou de se focaliser sur ce qu'on entend. C'est tout à fait reproductible ailleurs si vous vous rendez compte que ça vous fait du bien.
Et avec les tarifs accessibles aussi, c'est important pour ces séances?
Oui, alors les tarifs, c'est entre 10 euros et 30 euros la séance, en fonction de la durée de la séance et du lieu où on va.
Et là, j'ai vu que vous faites des séances aussi avec la MJC de Lamblédoué.
Oui, alors avec la MJC, on propose des balades sensorielles. On va dire que c'est un petit bain de forêt parce qu'il dure 1h30 et qui permet de faire une découverte pour les gens qui n'en ont encore jamais fait. C'est un format court et on s'occupe de tout, à savoir qu'on fait du covoiturage à partir de la MJC de Lamblédoué. Les gens n'ont pas à s'inquiéter de savoir où c'est, de trouver l'endroit. Je les prends en charge du début jusqu'à la fin.
Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de bains de forêt en région. Vous êtes presque la seule à faire ça, en tout cas dans ce territoire.
Alors moi, je connais une autre personne qui fait ça en forêt de Marchienne. C'est un peu plus loin, donc j'y vais quand même moins. Après, il y a des choses qui se développent sur, par exemple, une dame qui fait de la sophrologie et qui, de temps en temps, emmène les gens faire une séance de sophrologie en extérieur, près des arbres. Voilà, il y a des choses qui commencent à s'ouvrir un peu pour aller de plus en plus en forêt. Des bains de forêt comme je l'ai fait moi, je n'ai pas l'impression, mais c'est possible qu'il y en ait d'autres. Et à la limite, je dirais presque tant mieux, parce que plus on est nombreux et nombreuses à pouvoir emmener les gens en forêt, mieux c'est. Qu'on soit le plus possible à apporter du bien-être grâce aux arbres de la forêt, c'est quand même l'essentiel.
C'était Barbara, sylvothérapeute de Lambre-les-Doué, qui organise des bains de forêt dans le Douaisis. Pour avoir plus d'infos, rendez-vous sur son site étoiledeforêt.fr. Interview, prise de son et réalisation de Jérôme Bailly de Radio Scarpe Sensé.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Et là, si j'ouvre la porte, mais vous restez silencieux, hein, si j'ouvre la porte, vous allez comprendre, on va arriver au cœur même du projet, vous allez voir, il y a une très grande biodiversité, il y a une énorme diversité culturelle, on sera au cœur de Radio Campus Lille. Et oui, vous êtes bien sur Radio Campus Lille 106,6.
Tu viendras me dire ce que tu vas m'écrire. aspirations de paix et réconciliation. Je retiendrai un souffle d'air jusqu'à ce que tout s'éclaire. J'ai voulu délaisser notre amour, mais j'ai alors senti assombrir mes jours. Viens me parler, me raconter. Sans toi, je te veux toujours près de moi. Partons ensemble trouver nos accords. Je veux te chercher, me laisser guider, nous apprivoiser. Voti contar minha solidão. Essa tristeza agora em minhas mãos. Vem me dizer se nós dois você vai crer. Seu amor vai vencer.
Grand entretien, une proposition de Francine Géret. Aujourd'hui, Gina Gida, danseur et chorégraphe. Gina Gida vient du Cameroun. Il est actuellement en résidence au Centre chorégraphique national de Roubaix. Dans ce cadre, il bénéficie d'un plateau de danse pour travailler et il peut éprouver les conditions concrètes et réelles de la création. Espace, éclairage, son, décor, public et professionnels avertis. Dans ce cadre aussi, il anime des ateliers auprès de lycéens de la région ou auprès d'handicapés physiques ou mentaux ou encore auprès de personnes âgées. Mais par quel détour est-il aujourd'hui accueilli à Roubaix?
Moi déjà à la base, je m'appelle Gina Gida, Gina Gida, et je suis un danseur chorégraphe, artiste danseur chorégraphe. Je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun et j'ai pratiqué en fait la danse hip-hop au Cameroun. J'ai fait beaucoup de compétitions, beaucoup d'événements de danse hip-hop. J'ai même remporté beaucoup de prix au Cameroun. Et après, en fait, j'avais toujours l'objectif d'aller plus loin, en fait. J'avais l'objectif d'être l'un des érudits de l'art contemporain, en fait. D'être l'un des grands chorégraphes, en fait, dans le monde entier, en fait. Et vu que c'était compliqué en Afrique, au Cameroun, à cause de la précarité, à cause des difficultés politiques, et moi, j'étais tellement passionné de la danse que je me suis dit, c'est possible en fait de réussir avec la danse. Et même avant que je ne pratique la danse, j'ai joué au football. Et vu que mes parents n'avaient pas de moyens pour me mettre dans une école de formation, et j'ai abandonné le football, je me suis retrouvé en train de faire pratiquer la danse hip-hop. Et ma pratique vraiment était au Cameroun, pas vraiment évidente. Et je me suis dit, Tina, peut-être c'est ailleurs en fait que tu vas trouver, entre guillemets, le bonheur. C'est ailleurs peut-être que tu vas trouver la lumière. C'est ailleurs peut-être que... Et le ailleurs, en fait, je ne savais pas où était le ailleurs. Je ne savais vraiment pas où était le ailleurs. Et j'ai continué mes études en dansant en même temps avec la famille qui ne voulait pas, mais j'insistais. Et après, j'ai traversé des moments vraiment très, très compliqués en termes de santé. J'étais très, très maladif. Je suis tombé malade énormément. J'ai eu ce qu'on appelle la sinusite qui m'a envoyé 3 jours dans le coma. Et c'était très compliqué. J'étais entre la vie et la mort. Et c'est là où, la première fois, moi, j'ai vu l'au-delà, en fait. J'ai dit, il y a une autre vie de l'autre côté, en fait. C'est possible. Et j'ai combattu ce côté-là pour revenir dans le monde des vivants. Et je suis revenu, en fait. Et après, je rencontre des gens, des artistes, des grands chorégraphes, des performeurs, et je découvre l'art de la performance. Et toujours au Cameroun, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Tu fais des représentations, soit on va t'insulter à l'université. Moi, je me rappelle une fois à l'université, j'ai fait une performance. Pendant la performance, on m'a jeté en fait des ordures en fait. En pleine performance, on m'a jeté des cailloux, on m'a insulté, on m'a dit « Tina, ça ne va rien t'apporter, va étudier, ce que tu fais là, c'est zéro, c'est nul. » Et à la fin, j'ai coulé les larmes, j'ai pleuré. Et c'est là où je me suis dit « Tout peut être possible en fait, et je ne vais pas lâcher. » Et à l'intérieur de moi, je sentais toujours cette énergie. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais je sentais à l'intérieur de moi qu'il y a une lueur d'espoir quelque part. Il y a une lumière quelque part, mais je ne sais pas où en fait. Il y avait toujours cet esprit intérieur qui me parlait, quoi.
Thank you.
Je sentais qu'il faut aller quelque part. Peut-être ici, c'est pas ta place. C'est pas ici que tu devais être, en fait. Et du coup, je suis parti. J'ai fait le nord du Cameroun, Touboro. Je suis entré en N'Djamena, au Tchad. Et c'est là que j'arrive en N'Djamena, au Tchad. Je rencontre, en fait, les gens qui, pour eux, en fait, l'objectif, c'était de venir en Europe. J'ai dit, ah, ça, c'est une bonne idée, en fait. Et c'est là où j'ai dit, OK, je vais me connecter avec ce groupe de personnes, ce groupe d'amis, on va faire le voyage. Et du coup, on se retrouve, on passe par le Nigeria, tout ça, et on arrive en Libye. Et dès qu'on arrive en Libye, c'était très, très compliqué, en fait. Vraiment, vraiment très, 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 très compliqué.
Je peux vous demander l'âge que vous aviez à ce moment-là?
Là, je suis parti, j'avais... En 2014, j'avais 22 ans. Ouais, j'avais 22 ans. Ah, Francine... À chaque fois que je passe, j'ai la chair de poule qui sort sur moi, ça me fait... Tu rencontres des gens pendant ton parcours migratoire, pendant les étapes de la vie où tu arrives peut-être, je ne sais pas, même avant d'arriver à l'encre de la frontière du Tchad et du Touboro, du Nord Cameroun. Tu vois comment on te demande des sous, on te fait faire des choses, on veut même te sodomiser, on veut te faire faire des choses. Je me demande si en fait il y a des humains et des humains en fait. Parce que je pense pas qu'on peut traiter, toi en tant qu'être humain, tu traites une autre personne en sachant que toi-même tu es être humain. Qu'est-ce qui passe un peu dans la mentalité en fait des gens en fait. Et c'était là à Libye où c'était très compliqué, c'était vraiment très dur. Je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit que tout est fini, en fait. Tout est perdu. Tout est dans l'eau, quoi. Et j'ai retrouvé un état d'esprit où ça passait ou ça cassait, comme on dit chez nous. Ça passe ou ça casse, en fait. Où tu n'as plus peur de rien, tu ne ressens plus, tu n'as plus d'émotions, tu n'as plus de sentiments. Tu regardes quelqu'un, tu es capable de faire de n'importe quoi une personne, tout ça. Et on décide de partir, en fait. Et dès qu'on part, je me retrouve en Côte d'Ivoire où je rencontre une dame à qui j'ai raconté mon histoire. Et devant cette dame, en fait, j'ai fait une performance, en fait, au-delà de l'imagination. Mon tout premier spectacle qui n'avait rien de, entre guillemets, professionnel, mais parce que je voulais dire, en fait, des choses que moi, j'ai vues de l'autre côté, en fait, au-delà de la vie après la mort, quoi. C'est pour ça que j'ai dit, c'était au-delà de l'imagination. J'ai fait ce spectacle, j'ai rencontré cette dame. Elle m'a dit, Tina, rentre au Cameroun. Et le jour où tu vas avoir besoin de moi, appelle-moi, je vais être là pour toi. Elle m'a donné des sous, je suis rentré au Cameroun. J'arrive au Cameroun, je continue mes études et j'obtiens ma licence en art du spectacle et cinématographie. C'est là que j'ai dit, ah, ça peut être possible, je ne vais pas lâcher.
Tina Djida, danseur et chorégraphe.
Et quelques mois après, je postule. Déjà, j'avais l'ambition d'être l'un des érudits de l'art contemporain, faire des choses. Et je me suis dit, pour être l'un des érudits de l'art contemporain, il faut aller à l'école, il faut se faire former, il faut faire des rencontres, tout ça. Et moi, j'ai dit, pour se faire former, déjà, il faudrait que je finisse mes études, j'obtienne une licence, en fait. Et c'est là où je me dis, c'est bien beau de faire la formation en danse traditionnelle, contemporaine, africaine, écriture, la chorégraphie. Mais qu'est-ce qui va se passer après la formation? Et c'est comme ça que pendant la formation, j'ai décidé de créer un spectacle qui va raconter mon histoire, qui va parler de mon parcours migratoire, tout ça. De tout ce que j'ai rencontré, les péripéties, tout ça, les difficultés. Je vais raconter ça, je vais mettre sur un plateau, sur un espace de danse, je veux parler de la politique, tout ça, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe partout dans le monde, tout ça. Je vais dire ça via le mouvement dansé.
La danse de Chinajida a, dans son spectacle Cross, la violence d'une expiation sans apaisement possible et qu'il revit à chaque représentation. Le spectacle en préparation de Chinajida au Centre chorégraphique national de Roubaix s'intitule « Mon futur ne sera pas mon passé ». Comment cette phrase arrive-t-elle dans son parcours et s'est-elle imposée comme source de sa nouvelle création?
Mais parce que je me suis retrouvé dans un moment où j'étais bien, j'étais content, j'étais heureux. J'avais voulu avoir ce que je rêvais il y a très longtemps. Et puis j'ai eu ça en fait. Après, je ne voulais plus que ça se perde en fait. Et puis j'ai dit, ça c'est mon futur. Et je n'aimerais pas que ce soit comme mon passé. Et après, je me suis dit, Tina, est-ce que tu dois aller vers la lumière? Est-ce que tu dois encore chercher la lumière? Parce que la lumière que tu croyais avoir trouvée, ça t'a ramené à terre en fait. Et je me suis dit, peut-être la lumière, ça n'existe pas. Peut-être la terre promise, ça n'existe pas. Après un jour, j'ai arrêté de me questionner. Je me suis levé un matin, je me suis regardé devant le miroir. J'ai dit que je ne vais plus chercher la lumière. Parce que la lumière, en fait, c'est moi. Parce que la lumière, c'est toi. Et ce sont des gens, en fait, qui doivent venir vers moi. Donc, ça veut dire que si je suis lumière, ça veut dire que je dois juste partager ce que j'ai, mon ressenti, mes émotions, ma danse en fait, mon art. Je veux faire ce que j'ai à faire sur le moment. Et si je fais ce que j'ai à faire sur le moment, ça veut dire que je suis en train de transformer en fait mon passé, qui est présent et qui sera peut-être futur.
C'était Chinajida, danseur et chorégraphe, en résidence au Centre chorégraphique national de Roubaix. Un reportage de Francine Augéret pour Radio Boomerang.
Une émission réalisée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Moi, quand je me dis que je suis large pour faire une demande de bourse ou de logement étudiant. Moi, quand je réalise que je n'ai plus que quelques jours pour faire mon DSE. Vite, je me rends sur messervices.gouv.fr avant le 31 mai.
Et pour savoir si tu es éligible à une bourse ou un logement étudiant et comment remplir ton dossier, il suffit de te rendre sur le site jedemandemabourse.lescrousse.fr. jedemandemabourse.lescrousse.fr.
T'es parti, on se quête, chercher des allumettes. Ça c'est un coup classique, mais pourquoi as-tu pris mon fric? Je l'ai mauvaise, je l'ai mauvaise, je l'ai mauvaise, oui oui, je l'ai mauvaise, je l'ai mauvaise. Si tu reviens un jour, moi je partirai à mon tour. Oui 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 oui. Pour pouvoir t'oublier, je me suis bien saoulé. Quand il fallut payer, j'étais sans sous, on m'a cogné. Je l'ai mauvaise, oh oui, oui, je l'ai mauvaise. Oh, je l'ai mauvaise, je l'ai mauvaise, je l'ai mauvaise. Si tu reviens un jour, je te jure chérie, ça sera ton tour. Mais oui, mais oui, mais oui. J'ai voulu suicider au gaz à l'électricité, mais ils étaient coupés car je n'avais pas pu payer. Je l'ai mauvaise, je l'ai mauvaise, je l'ai mauvaise. Oui, oui, je l'ai mauvaise, je l'ai mauvaise. Je croyais tout terminé quand on m'a envoyé l'huissier. Oui, 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 oui. Il m'a saisi mon lit, mes chaises, mon parapluie. Il m'a laissé pour que je puisse voir ma grimace. Je l'ai mauvaise, oui, 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 je l'ai mauvaise. Oh, je l'ai mauvaise, je l'ai mauvaise, je l'ai mauvaise. Si tu reviens repentant, faudra que je te mette chez ma tante.
m'attend. Tu m'écris, ma chérie, de Nouvelle-Calédonie. Tu vas fort, mon amour, en me demandant de payer ton retour. Je l'ai mauvaise, 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 mais tu vas la faire mauvaise. Souviens-toi, ma petite tête, du coup classique des allumettes, du coup classique des allumettes, mais oui.
Voyage au Japon en plein cœur de ville. C'est le chemin que propose le sentier de Shimono Bambusa, un jardin privé à Elem près de Lille, l'œuvre impressionnante d'une vraie passionnée. On vous propose de la rencontrer.
Bonjour, je suis Martine Vandenbusch. Je suis la propriétaire du jardin, le sentier du Shimono Bambusa qui se situe à Elem.
Comment c'est arrivé dans votre vie, d'abord, la passion pour le Japon ?
Alors, la passion pour le Japon remonte à mon enfance. Aux environs de 5-6 ans, j'étais déjà passionnée par cette culture japonaise, chinoise également, par l'Asie. Voilà, c'est tout un ensemble. J'avais pas de télé, pas de revue, rien du tout, pas d'amis, pas de copines japonaises ni chinois. Je sais pas, ça vient comme ça de l'intérieur de moi, et difficile à expliquer. Mais voilà, c'est ancré en moi depuis mon plus jeune enfant jusque maintenant. Je pense que ça ne va pas me quitter.
Alors, comment ça s'est manifesté avant de créer ce jardin, quand même quelques années plus tard, mais comment ça s'est manifesté dans votre adolescence, dans votre jeunesse, collection d'objets, intérêt particulier pour la culture
Je collectionnais déjà des sujets, quelques petites antiquités quand j'étais ado. Voilà, et puis ça s'est accentué au fur et à mesure du temps, et puis j'en suis arrivée à ce stade, là, maintenant. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est un jardin de 370 mètres carrés. Une première partie terrasse et bassin. Ensuite, la première partie est fermée avec un torii, comme vous pouvez voir. On aura
un torii.
Un torii, c'est une porte japonaise qui délimite la première partie du jardin. Et ensuite, on aura une terrasse à niveau. Et ensuite, une troisième terrasse, une terrasse d'ombre de méditation, suivie d'un pavillon de méditation.
Comment et quand avez-vous décidé de créer ce jardin ?
Ce jardin, je l'ai créé en 2003. En 2003, il s'est passé un événement dans ma vie qui a fait que j'ai eu ce déclenchement de faire ce jardin, de repartir pour une nouvelle aventure à zéro, voilà.
Comment vous y êtes pris à partir du moment où vous avez décidé de créer ce jardin? Je ne sais pas comment c'était avant, mais j'imagine que c'était un jardin normal avec une pelouse, des fleurs, peut-être des arbres.
Oui, avant que je crée ce jardin en 2003, j'avais créé un autre jardin avec de la pelouse, des arbustes, des fleurs, des vivaces, etc. Et puis, bon, ça m'a satisfait pendant un certain temps. Et puis en 2003, je me suis dit, non, allez, je me lance. C'est un défi que je me lance à moi-même. Et j'ai foncé. Voilà, donc j'ai réalisé. Voilà. Ainsi bien que l'intérieur de la maison également aussi. Donc il fallait que ça soit en harmonie avec le jardin.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé jusqu'ici de la maison, mais il y a aussi des meubles, de la décoration japonaise dans toutes les pièces.
Oui. Donc on peut retrouver du mobilier japonais mélangé au contemporain. Voilà.
Donc vous avez commencé par quoi? Alors par les bassins, c'est ça? Ou comment ça s'est passé?
J'ai commencé par chercher tous les matériaux, déjà. Parce que bon, pour commencer un jardin, pour démonter le premier jardin et installer le second, il fallait déjà de la matière. Donc j'ai commencé à chercher les matériaux, les pavés, les pierres, les galets, les cailloux. Ensuite, les végétaux. Donc j'ai tout stocké pendant un an, voire deux ans au fond du jardin. Et puis, j'ai eu suffisamment de matière, j'ai commencé le jardin. Donc j'ai commencé par la terrasse du bout, ici nous sommes là, la terrasse ronde en pavé, et petit à petit j'ai avancé, j'ai imaginé, et puis après je me suis dit, il manque de la terre, donc il faut faire rentrer de la terre, et puis je me suis dit, je vais faire un bassin avec des carpes koi. C'est l'emblème du Japon, les carpes koi. Donc puis il fallait de l'eau au jardin, il fallait que ça soit vivant, malgré que les végétaux sont vivants, mais il fallait les carpes. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait un bassin. J'ai décaissé pour avoir de la terre pour faire des niveaux au jardin, donner du relief.
Donc là, je fais bien attention de ne pas tomber sur le pont.
Oui, un pont, un double pont qu'on peut traverser pour accéder au jardin. Donc en fait, c'est un seul bassin, mais qui est décalé. Voilà, on a l'illusion d'avoir deux bassins, mais en fait, il n'y a qu'un bassin. Donc là, vous voyez les carpes koi, je vais les nourrir.
Donc les carpes koi, ce sont ces magnifiques poissons, ces grosses carpes, moustachues souvent.
Oui, ce sont des petites moustaches, oui. Comme vous pouvez voir là. Donc elles sont nourries à partir du mois d'avril, début avril, jusqu'à mi-octobre. Après, elles sont en hibernation. Elles ne mangent plus. Et elles font surface au mois de mars, avril, voilà.
Donc elles sont au fond du bassin?
Oui, le bassin fait 1m60, comme cela il n'y a aucun souci pour l'hiver. Elles sont bien tranquilles, elles ne sont pas gênées par la neige ou le froid. Donc la plus âgée, elle doit avoir entre 15 et 18 ans.
C'est vraiment très impressionnant, puis c'est très c'est magnifique avec ces couleurs orange, blanc, noir.
Avec un rayon de soleil sur les écailles, c'est splendide. Vous avez des jaunes, des orangés, des noirs. Vous avez des carpe-voiles également. Vous voyez la toute petite noire et rouge, qu'elle est née ici. C'est la seule qui est née dans ce bassin.
J'imagine, avant de vous lancer, il y a aussi un travail de documentation, d'aller voir aussi des jardins ailleurs, ou tout est sorti de votre tête,
voilà,
de votre imaginaire?
Exactement, vous avez deviné, tout est sorti de mon imagination. Complètement. La seule chose, j'ai eu un livre dans les mains, c'est parce qu'on me l'a mis pour faire un reportage. C'est le seul livre que j'ai eu dans les mains. Mais autrement, tout vient de mon imagination.
C'est vraiment incroyable ce que vous avez fait quand même un nombre assez resserré d'années finalement. C'est très grand, c'est très beau. On est complètement dépaysé à l'intérieur de l'île là.
On voyage tout en restant sur place. C'est pour cette raison que j'ai fait ce jardin pour pouvoir voyager tout le temps, et je suis émerveillée, tous les jours je suis émerveillée, donc je retrouve des nouvelles choses, des fleurs qui éclosent, c'est magnifique, c'est reposant.
Ça repose, est-ce que ça soigne aussi
Oui, c'est une bonne thérapie, moi je vois quand je travaille tous les jours dedans, mais écoutez, pour moi c'est un genre de thérapie de méditation, je me vide l'esprit, je suis ailleurs, hein, voilà. Troisième partie. Bien sûr, on retrouve toujours des points d'eau, des fontaines, des circuits fermés. Toujours le bruit de l'eau, très doux, très apaisant.
On visite toujours le sentier de Shimono Bambusa en compagnie de sa créatrice, Martine Vandenbusch.
On retrouve le Shimono Bambusa ici, qui porte le nom du jardin. C'est un bambou de Sichuan, un bambou de collection. C'était une des cannes de l'acteur Charlie Chaplin. Elle était réalisée en Shimono Bambusa. Donc j'adore ce bambou, c'est un bambou de collection. Et comme vous pouvez voir ici, vous retrouvez des nœuds assez prononcés. Ça fait comme deux cymbales qui se rejoignent. Il y a plusieurs variétés de shimono, je vous en ferai voir d'autres après. Mais celui-ci est très, très élégant.
Ce jardin, il est ouvert souvent hein, au public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe en fait? Vous accueillez des groupes, des curieux, des passionnés aussi?
Oui, j'accueille des personnes qui veulent découvrir ce type de jardin, des passionnés de jardin, et puis des gens qui sont de passage également aussi, des étrangers. Et ils sont ravis de voir ce lieu comme ça, près de l'île. Voilà. Moi, je fonctionne uniquement sur rendez-vous. J'accueille des petits groupes ou des personnes individuelles. Voilà, ça va de 10 à 30 personnes. Voilà.
Alors j'imagine, c'est un investissement en temps, en argent aussi, j'imagine. C'est une grande partie de votre vie, non?
Ah oui. Beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité, et puis beaucoup de réflexion et beaucoup d'argent également, parce que c'est un choix que nous avons fait. Donc c'est un choix, donc dans la vie on ne peut pas tout avoir. Donc nous, notre choix, c'était d'avoir un beau jardin et un bel intérieur. Donc ça, c'est vrai que ça a un coût. Donc on n'a pas de vacances, on ne voyage pas, pas de sortie. Mais bon, le jardin nous le rend très bien.
Alors ce qui peut paraître étonnant, c'est que vous n'êtes jamais allé au Japon?
Non, je ne suis jamais allé au Japon. Et je n'ai pas voyagé en Asie. Donc je voyageais que dans mes rêves. Voilà.
Martine Vandenbusch, créatrice du jardin botanique Le Sentier de Shimono Bambusa à Elem, jardin que vous pouvez visiter de jour et même de nuit l'été. C'est sur réservation. Le lieu accueille aussi de petits événements culturels comme des ateliers d'écriture de poésie ou des lectures. Ce sujet a été réalisé par Nico de Radio PFM.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous pensez de Radio Campus?
Je vais te dire un truc, moi aussi j'ai flirté avec le pacifisme à un moment donné. Oh, pas au Vietnam bien sûr.
Tu veux me dire ce que le Vietnam vient foutre là-dedans?
Pardonne-moi.
Mais où est le rapport, nom de Dieu?
Radio Campus 106,6, à l'image de ses auditeurs.
The tension is incredible, boy, I'm in charge. You know how I feel for you. Will you stop or will you just